souviens de nous et d'autrefois, de fils barbelés, de prisonniers du pays aux horreurs, où l'on brûla vos frères et vos sœurs. Parfois vos crimes hantés, j'ai mal, me rappelant l'infernal.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester.
Le pasteur allemand, Martin Niemöller, a survécu au camp de concentration nazi. Ce sermon, il l'a prononcé devant une communauté protestante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charles Zelti avait 15 ans lorsqu'il a rejoint un groupe de résistants communistes juifs en août 1942 à Lyon. Arrêté le 7 mars 1944, après avoir transité par Drancy, il arrive avec le convoi numéro 70 à Auschwitz.
Il sera libéré à Bergen-Belsen en avril 1945. Il n'a cessé depuis de témoigner pour expliquer comment ce cauchemar collectif a été rendu possible et ce qu'il a été. Quand il reprend les mots du pasteur Niemöller, c'est bien pour pousser à la vigilance permanente, pour crier. Plus jamais ça. Mais le cri ne suffit pas, il faut expliquer, faire comprendre.
C'est ce qu'il a fait avec nous à Auschwitz, par une belle et douce journée de printemps, d'un bleu limpide, où entre ses commentaires, ceux d'Alban Perrin venu du mémorial de la Shoah, ceux de Teresa, notre guide polonaise, il n'y avait place que pour de lourds silences, perturbés par le léger gazouillis des oiseaux. Et pourtant...
Dans cette cinquième et dernière émission de notre série consacrée à la Shoah, le regard sera tourné vers l'avenir. Notre génération, comme celle de nos parents aussi, n'a pas connu la période de la guerre. La connaissance que nous en avons vient de ce que nous découvrons à l'école, des livres que nous avons pu lire, des documents que nous avons pu consulter, des films ou documentaires que nous avons pu voir.
Mais si la connaissance est une étape indispensable pour espérer comprendre comment ce drame épouvantable a été possible, il faut aussi en tirer des leçons. Si dans notre vie, nous devons, chacun, lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les haines et violences que certains hommes sont capables de développer contre d'autres, il est indispensable que les États ou les organisations internationales mettent en place des moyens de prévenir les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, comme celui commis par les nazis sur plusieurs millions de juifs.
Depuis, il y a eu le Cambodge, le Rwanda, le Darfour. Des crimes de nature différente par rapport à la Shoah, dont le caractère d'extermination programmée et méthodique est unique, mais l'expression que la barbarie humaine est toujours possible.
Ce monde borné de quel entre-deux-guerres, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière, nous n'avions que 5 ans du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou un P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, cocufier Madelon dans les bras de Marlène. Une fois là, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière. Et nous nous en allions en suçant des bonbons, jouer du revolver à deux sous le bouchon. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens. Elle était jolie, on faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens. Dans ce monde truqué de quelle drôle de guerre, où ceux qui font le front le bradaient à l'arrière, nous n'avions que 10 ans et dans nos gibecières,
Une histoire de France qui tombait en poussière. On nous a fait courir, traverser des rivières, sur des ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers. Ça tirait par devant, ça poussait par derrière. Les plus pressés n'étaient pas les moins militaires. On nous a fait chanter pour un ordre nouveau, d'étranges marseillaises de petite vertu, qui usaient de la France comme d'un rince cul, et s'envoyaient en l'air aux portes des ghettos. Et je me souviens, la petite juive, on lui a dit, viens, elle était jolie, elle a fait sa valise, un baiser de la main, elle s'appelait Lise. Il n'en reste rien.
Témoigner. Simone Veil avait 17 ans quand en avril 1944, elle est arrêtée à Nice. Transférée à Drancy, elle se retrouve avec sa mère et sa sœur dans un convoi pour Auschwitz. Son père et son frère, arrêtés plus tard, seront envoyés vers Kaunas en Lituanie où ils disparaîtront. Une autre sœur ayant rejoint la résistance sera aussi déportée et survivra à Ravensbrück. Ayant survécu à la sélection vers les chambres à gaz en cachant son jeune âge, elle réussit à survivre à l'horreur d'Auschwitz. Le tatouage et la perte d'identité, les humiliations, les violences, les incohérences dans les comportements des capots, la pestilence des corps brûlés, la boue, l'humidité, la peur. En juillet 1944, elle est affectée à un commando avec sa sœur et sa mère à Beaubray. Puis, elle raconte les marches de la mort en janvier 1945 lorsque les nazis forcent les déportés à quitter les camps que les Russes vont bientôt atteindre. Elle décrit le désordre et les dénuements de Bergen-Belsen où, affectée en cuisine, elle survivra. Sa mère, dont elle dit « Jamais je n'ai pu me résigner à sa disparition », meurt du typhus qui l'atteindra ainsi que sa sœur juste avant la libération du camp. Il faudra plusieurs années pour que cette femme au parcours remarquable, plusieurs fois ministre, présidente du Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel, présidente d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et récemment membre de l'Académie française, il faudra plusieurs années pour qu'elle témoigne dans une vie. Blandine prête sa voix.
Nous avons marché avec les autres femmes, celle de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné, en béton, muni d'une seule fenêtre, où nous attendaient les capots, des brutes, même si ce n'était que des déportés comme nous, et pas des SS. Elles hurlaient leurs ordres avec une telle agressivité que tout de suite nous nous sommes demandé qu'est-ce qui se passe ici. Elle nous pressait sans ménagement. Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que, de toute façon, vous ne garderez rien. Nous avons tout donné. Bijoux, montres, alliances. Avec nous, se trouvait une amie de Nice, arrêtée le même jour que moi. Elle conservait sur elle un petit flacon de parfum de l'Anvin. Elle m'a dit « On va nous le prendre, mais moi, je ne veux pas le donner, mon parfum. » Alors, à 3 ou 4 filles, nous nous sommes aspergées de parfum. Notre dernier geste d'adolescente coquette. Après cela, plus rien, pendant des heures. Pas un mot, pas un mouvement, jusqu'à la fin de la nuit. Entassée dans le bâtiment. Celle qui avait été séparée des leurs commençait à s'inquiéter, se demandant où étaient passés leurs parents ou leurs enfants. Je me souviens qu'aux questions que certaines posaient, les capots montraient par la fenêtre la cheminée des crématoires et la fumée qui s'en échappait. Nous ne comprenions pas. Nous ne pouvions pas comprendre ce qui était en train de se produire à quelques dizaines de mètres de nous était si inimaginable que notre esprit était incapable de l'admettre. Dehors, la cheminée des crématoires fumait sans cesse. Une odeur épouvantable se répandait partout. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Nous sommes restées assises à même le sol, dans l'attente de plus en plus anxieuse de ce qui allait nous arriver. Certaines essayaient de s'allonger par terre, n'importe comment. Pour autant, elles ne parvenaient pas à dormir. Trois ou quatre heures se sont ainsi écoulées. De temps en temps, une capot qui se tenait dans un coin de la pièce se mettait à crier ou menaçait certaines d'entre nous de son fouet. On parlait trop fort, on bougeait trop, que sais-je encore. De petits groupes s'étaient spontanément formés. Les filles plus jeunes de leur côté, les plus âgées entre elles. Et tout le monde discutait à voix basse, en échafaudant des hypothèses sur un sort dont nous ignorions tout. Puis, les capots nous ont fait lever et mettre en rang par ordre alphabétique. Et nous sommes passés, l'une après l'autre, devant des déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui nous arrivait était irréversible. On est là pour ne plus sortir. Il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est indélébile. C'était sinistrement vrai. À compter de cet instant, chacune d'entre nous est devenu un simple numéro inscrit dans sa chair. Moment en enfer. Extrait d'une vie de Simone Veil. Interprété par Blandine.
Мой дорогий, мой дорогий,
Pourquoi avoir attendu 2007 pour écrire et publier Une vie, et surtout le témoignage sur votre vécu de la Shoah? Vous dites de Primo Levi qu'écrire si vite après la guerre est un exploit qui relève du mystère.
On écrit un certain nombre de choses, le plus souvent avec du recul. Ça n'a pas été le cas de Primo Levi, mais c'est justement son livre est peut-être 20 ans plus tard, il n'aurait pas écrit la même chose. On prend du recul, on ne sait plus les mêmes. On est d'abord, on tient compte de ce qui s'est passé dans le temps. Là, il y a eu 60 ans, ce qui change beaucoup le regard même que l'on peut porter. Et puis surtout, on l'intègre dans une atmosphère différente. Et je crois que quand on veut écrire, il faut avoir le temps, il faut avoir réfléchi, il faut surtout avoir le sentiment qu'au moment où on va publier le livre qu'on a écrit, il correspond à une situation qui est différente. Et donc il faut à la fois prendre du recul et en même temps ne pas laisser tomber un certain nombre d'intérêts.
Quand avez-vous pris conscience que les nazis destinaient les juifs d'Europe à l'extermination ? Vous faites apparaître déjà à Nice vos inquiétudes sur les témoignages fournis par des réfugiés.
Vous savez, le régime nazi ne s'est pas installé en 1939, mais dès 1933, on a pu voir ce qu'il risquait de se passer. Et d'ailleurs, c'est en Allemagne que les juifs en premier ont quitté le pays en voyant ce qui se passait. Moi, j'habitais Nice à l'époque, et j'étais niçoise, et on a vu arriver un certain nombre de gens. D'ailleurs, les premiers n'étant pas, il faut le dire, n'étant pas les juifs, mais les ennemis politiques, c'est-à-dire les communistes, les socialistes, ou simplement ceux qui se sont opposés à toute la démarche et à toutes, il faut bien dire, les horreurs qui ont commencé très, très rapidement à être réalisées en Allemagne. Donc je crois qu'on a pris conscience à ce moment-là, mais on ne pouvait pas imaginer jusqu'où ça irait. Et donc on avait beau... Moi je me souviens, quelques années avant la déclaration de guerre, Raymond Aron, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est devenu ensuite un grand écrivain, mais qui à l'époque était peu connu, avait été en Allemagne, et je me souviens qu'il alertait les gens en disant, vous savez ce qui se passe, c'est épouvantable, et avec la nuit de cristal, évidemment, on a vu le début en Autriche de ce qui s'est passé.
Votre famille a été brisée, pouvez-vous nous retracer le sort des membres de votre famille ?
Oui, nous étions... moi j'avais mes parents, mon père et ma mère, un frère et deux sœurs. Une de mes sœurs n'habitait pas Nice, elle était dans la résistance, et nous avons appris et nous avions toujours espéré qu'elle ne serait pas arrêtée comme nous l'avons été. Et en fait, c'est le jour même où nous sommes rentrés en France, ma sœur aînée et moi, que nous avons appris tout à fait par hasard, par des camarades qui étaient à Ravensbrück avec elle, qu'elle avait été arrêtée et déportée. Mais enfin, elle était arrivée avant nous, je crois la veille ou l'avant-veille, donc nous avons su qu'elle était rentrée. On a été donc dans l'inquiétude pendant peu de temps, mais pour ce qui concerne mon père et mon frère, nous n'avons jamais rien su de ce qu'ils sont devenus. On pense, enfin, c'est à peu près sûr qu'ils sont partis dans un convoi qui était en Lituanie et dont pratiquement personne n'est rentré. On n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Soit qu'ils étaient des gens qui disent qu'ils ont été lâchés dans les bois pour s'en débarrasser. D'autres ont dit qu'ils ont été tués très, très rapidement. Donc nous n'avons rien su.
Qu'est-ce qui a fait que l'adolescente que vous étiez a pu survivre sur cet itinéraire d'horreur de Drancy à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen ?
Je dirais que la première chose peut-être qui a joué le plus pour m'aider, pour me sauver, c'est que j'ai été arrêtée à Nice alors que je menais une vie à peu près normale. Qu'on sortait, qu'il faisait beau, j'avais passé mon bachot quelques jours avant qui avait été avancé, et donc j'étais en bonne forme physique. Alors que pour beaucoup, et notamment pour, je pense aux Bolognaises, par exemple, aux Juifs Bolognaises quand elle était arrêtée, ou à d'autres, ou des gens qui étaient restés très longtemps dans des ghettos avant d'être déportés à Auschwitz, et donc qui n'avaient pas du tout la même capacité de résister au camp. Alors il y avait cet aspect donc de fond, mais aussi le fait que d'être en bonne santé permettait également d'avoir une allure, enfin ou une apparence. Non, c'était plus que de l'apparence, c'était vraiment d'être en bonne santé et donc de ne pas avoir déjà à assumer toute une série de camps et une série de situations dans lesquelles les gens avaient déjà beaucoup souffert quand ils avaient passé 2 ou 3 ans, comme c'était le cas quelquefois en Pologne, par exemple, dans un ghetto. Ils étaient déjà, au moment où ils étaient déportés, ils étaient déjà en très mauvais état. Et il y avait une sélection à l'arrivée, et certains qu'à l'arrivée, comme j'étais avec maman et avec ma sœur, ma mère était malade en fait, mais ça ne se voyait pas, ma sœur avait quelques années de plus que moi, et que toutes les trois nous sommes entrées dans le camp, alors que la plupart des convois qui arrivent, alors que dans très souvent, d'abord tous les enfants qui avaient moins de 15 ans étaient mis de côté, ou même moins de 16 ans n'entraient pas dans le camp, ils étaient tout de suite gazés, et les gens qui avaient plus de 40-45 ans également. Alors ça dépendait des convois. Il faut bien dire que le mois d'avril, quand nous sommes arrivés, c'était juste après les épidémies de l'hiver. Beaucoup de gens étaient morts et donc il y avait de la place dans le camp. À d'autres moments, quand il y a par exemple les Hongroises, quelques semaines après nous, sont arrivées, à ce moment-là, déjà le camp avait été un certain nombre de gens étaient entrés dans le camp était plein et la plupart des Hongroises ont été gazées dès leur arrivée. Donc on peut dire qu'on était tenu par un sort auquel on ne pouvait rien.
La mémoire est-elle sélective par rapport à tout ce que vous avez vécu ?
Vous savez, la mémoire, c'est toujours pareil. La mémoire, c'est ce qu'on veut retenir ou ne pas retenir.
Vous évoquez les complicités inattendues qui ont ouvert des portes de chance. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ?
Oui, dans toutes, je dirais que toutes les vies, quelles qu'elles soient, elles ont des moments de chance et des moments de malchance. Simplement, ce que je dirais, c'est qu'évidemment dans le camp, la malchance, c'était de dire qu'on arrivait dans un convoi où il y avait, comme le camp était déjà plein, tout le monde était gazé à l'arrivée, ou quasiment tout le monde. Et quand, au contraire, on arrivait à un moment où il y avait de la place dans le camp, justement, comme je disais, juste après l'hiver, où il y avait eu pas mal de déportés qui étaient morts, il y en avait davantage qui entraient dans le camp. Et puis, il y avait la chance. C'est vrai que comme j'avais été pratiquement, quand j'avais été arrêté puis déporté, il s'était passé un temps très très court entre le moment où j'avais une vie normale et le moment où nous avions été déportés avec ma sœur et ma mère. On était plus en forme, on était en meilleure santé, et que l'apparence comptait beaucoup. C'est toujours sur l'apparence qu'on était jugé. Donc quand on nous donnait l'impression d'être ou qu'on était vraiment vigoureux, en état de faire des choses, de survivre, c'était plus facile que quand on arrivait déjà, comme je l'ai dit, soit d'une prison, en France ça pouvait être le cas, puisqu'il n'y avait pas de ghetto en France, mais il y avait des camps tout de même, on avait pu donc être, certains avaient été internés pendant assez longtemps, et quand c'était d'autres pays, les gens très souvent avaient passé déjà longtemps aussi en rétention. Donc dans tout ça, la chance, les situations sont évidemment importantes auxquelles on ne peut rien.
Vous refusez d'admettre le principe de la responsabilité collective. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ?
Non. Non. Non, il y a une responsabilité collective, il y a les deux. Mais en général, la responsabilité collective, elle s'inscrit quand il y a eu déjà un travail important qui a été fait, soit par un groupe politique, soit
par une situation particulière comme celle, par exemple, d'un pays qui est occupé et l'occupant impose un certain nombre de situations dans lesquelles la population a beaucoup de mal à réagir. La France occupée, je vois, il y avait franchement à ce moment-là être entre le sud de la France et le nord de la France, une grande différence, et que les choses ont changé. Moi, je disais que j'avais habité Nice. Les choses ont beaucoup changé quand au mois de septembre précédent, les Italiens ont signé un armistice et le jour même où ils ont signé cet armistice et où donc se défaussait en quelque sorte, sortait de la guerre, la Gestapo est arrivée. Moi, j'ai par exemple une amie, c'était en mois de septembre, le 9 septembre, si je me souviens bien, et le jour même, la Gestapo a commencé à arrêter. Avant de faire quoi que ce soit, la Gestapo était là et a commencé à arrêter les Juifs. Donc c'est très très difficile de parler de ce qui est collectif dans la mesure où effectivement ça peut être très très important.
Vous dites juste après la guerre, nous souhaitions parler mais on ne voulait pas nous écouter. Et aujourd'hui?
Je crois que quand on est rentré, quand c'était des gens de notre famille, pour la plupart, nous n'avions plus de famille. Moi, j'ai retrouvé des oncles et tantes qui avaient de la famille en Suisse, qui étaient en Suisse pendant la fin de la guerre. Et donc, avec eux, il n'y avait pas ce refus de nous entendre. Les réticences venaient surtout beaucoup de ceux qui étaient convaincus qu'on exagérait, que tout ça était... Ils ne pouvaient pas comprendre. Quand on disait les choses, en plus, nous, on ne se rendait pas compte parce qu'on rendait on parlait des choses avec beaucoup, telles qu'elles avaient été, et pour les gens, ça paraissait tellement incroyable qu'ils pensaient qu'on inventait. Il y avait aussi le fait que dans les familles où il y avait eu des déportés, on n'avait pas aussi, c'était très douloureux d'entendre, ce qui fait que très, très rapidement, on parlait entre nous, mais qu'on se rendait compte qu'il y avait un refus de nous croire. Ou bien alors, moi j'ai un souvenir, par exemple, en Suisse, un très mauvais souvenir d'avoir... J'avais été pendant quelques temps, 3 semaines en Suisse, je ne suis pas resté, mais on vous posait alors au contraire des questions du genre, est-ce que c'est vrai que les SS faisaient mettre les femmes enceintes par des chiens? Enfin, vous voyez le genre de choses. Alors, ce qui faisait qu'assez rapidement, on se voyait entre nous, on en parlait, mais qu'on n'avait pas très... Les gens ne comprenaient pas du tout. Pas du tout. Moi, la seule chose à laquelle, comme si on approchait de l'été, et j'évitais de mettre des robes à manches courtes, parce que je ne voulais pas qu'on voit mon numéro et qu'on me pose des questions, parce que les questions étaient à cette époque-là tellement décalées par rapport à la réalité.
Vous insistez sur les justes et considérez qu'on ne les a peut-être pas assez valorisés. Quel regard, 60 ans plus tard, avez-vous sur eux?
Oui, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça, c'est même pas du tout comme ça. En ce sens qu'on n'a pas du tout parlé des justes pendant très longtemps. Ça n'existait pas. C'est Yad Vashem, l'État d'Israël, donc qui a instauré, si vous voulez, le concept de juste, en faisant d'ailleurs chaque fois pour chaque personne concernée signalé, si vous voulez, en quelque sorte à l'État d'Israël, puisque c'est l'État lui-même qui déclare si les gens sont des justes ou pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, on en parlait très peu. Et je me souviens quand il y a un film qui est sorti et qui avait l'air de dire que en France, tout le monde avait dénoncé tout le monde, que ça avait été épouvantable. Et le film s'appelait Le Chagrin et la Pitié. Et moi, à l'époque, il se trouvait que je faisais partie du staff de l'ORTF, en ce sens que pas comme l'ORTF, il n'y avait qu'une télévision, enfin, tout était de l'État, et donc l'État avait un certain contrôle sur la télévision. Et je m'étais fortement opposée à ce qu'on diffuse ce film sur le chagrin et la pitié, parce que justement il ne montrait que des gens qui avaient été des salauds, c'est-à-dire qui avaient dénoncé, qui avaient et il prenait l'exemple d'une ville comme Saint-Étienne. Alors c'était très mal choisi, parce qu'au contraire il y avait eu beaucoup de résistance et beaucoup de gens qui avaient été sauvés à Saint-Étienne. Mais ça a été longtemps, c'était l'idée qui était faite, c'est que tout le monde avait été vraiment, s'était très mal comporté, alors qu'il y a tout de même beaucoup de gens qui ont pris des gros risques pour soit emmener des gens en Suisse, soit les cacher chez eux, soit les prendre à la campagne, et notamment par exemple beaucoup d'enfants ont été cachés dans des couvents ou ont été cachés chez des gens. Et je dirais que si on compare justement la situation de la France à la plupart des autres pays voisins, on s'aperçoit que le pourcentage de juifs qui ont été déportés, qui ne sont pas entrés, est beaucoup plus faible que dans d'autres pays.
d'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi.
Parmi les témoignages sur les conditions dans lesquelles des familles juives ont tenté de se protéger des rafles, le plus précis a été retrouvé par Otto Frank à Amsterdam lorsqu'il est revenu des camps. C'était le journal tenu par sa fille Anne. Édité, le journal d'Anne Frank est devenu le livre le plus lu au monde après la Bible.
Pourriez-vous retracer les étapes de la vie d'Anne Frank depuis son départ de Francfort jusqu'à sa mort à Bergen-Belsen ?
En 1934, Anne Frank est venue à Amsterdam parce que c'était plus facile d'habiter en allemand pour les juifs. Elle est venue à Amsterdam avec ses parents et avec sa sœur. Elles étaient à l'école ici. Elle était une fille très normale comme toutes les autres filles. Mais en 1940, il y avait la guerre était venue en Hollande aussi, et la vie pour les Juifs devient plus et plus difficile, de temps en temps plus difficile. Alors, le père d'Anne Frank décidait de fuir pour une seconde fois, pas dans l'étranger, mais ici dans la maison, son commerce, dans la maison en arrière. Il se cachait pendant 2 ans, de 1942, si le 6 juillet 1942, jusqu'à août 1944. Ils étaient cachés ici avec une autre famille et avec une autre connaissance, Monsieur Pfeffer et la famille Pels. En 1944, en août, ils étaient trahis. Et les nazis les emportaient. Premièrement, ils sont allés un camp en Hollande. Et après ça, ils sont transportés à Auschwitz et en Pologne. Et après ça, Margot et Anne Frank sont transportés à Bergen-Belsen. Et à Bergen-Belsen, c'était très très dur. Il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Il y a beaucoup de diseases, de
maladies.
Et enfin, Margot et Anne Frank sont décédées 2 mois avant la libération de maladie. Typhus en français aussi.
Quelle place tient le journal d'Anne Frank dans le devoir de mémoire sur la Shoah ?
Je crois que c'est une place très importante parce que le journal montre qu'est-ce qu'il peut passer avec des gens quand il y a beaucoup de discrimination. Alors, le journal d'Anne Frank, c'est seulement un exemple. Il y a des milliers de milliers de journaux et des milliers de millions de filles ou de gens qui étaient cachés pendant la guerre, parfois même dans des circonstances plus pires que la famille Frank. Mais Anne Frank
à l'écrit tout. Elle a écrit tous ses émotions et ses pensées. Elle était une fille de 13 ans, une adolescente, beaucoup de changements dans une fille dans une adolescente. Et elle a écrit, décrit très bien l'angoisse et qu'on a peur et alors qu'est-ce qu'il passe avec quelqu'un et tout ça seulement parce qu'ils étaient juifs pour rien d'autre seulement et ça c'est un exemple je crois qu'est-ce que peut la discrimination c'est on est toujours très légèrement avec la DE, c'est pas très mal, on doit c'est pas très grave, mais ça peut devenir très 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 grave. Et je crois que beaucoup de gens se reconnaître dans le journal d'Anne Frank. Et c'est pour ça, je crois que c'est si grand, si populaire, un succès comme ça.
Quel but, quelle vocation a le musée dans le devoir de mémoire ?
Je crois que j'ai déjà raconté un petit peu. En 1960, il y a décidé de démolir toutes les maisons ici parce qu'ils étaient vieux. Mais il y avait des gens qui... Ils s'appelaient les amis d'Anne Frank. Ils disaient, ça peut pas disparaître. Ça doit être ici pour comme souvenir qu'on doit toujours. Les gens peuvent toujours voir qu'est-ce que ça signifie la guerre et la discrimination. Et alors ils ont fait une institution ils ont acheté la maison et le restauré et on le fait pour le faire dans un musée pour montrer tout le monde de l'importance de la tolérance avec les autres gens et les juifs et pour moi c'est pas seulement les juifs. C'est la discrimination pour en général que Anne Frank, la maison d'Anne Frank montre.
Anne, ma sœur Anne. Si je te disais ce que je vois venir, Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne, ma sœur Anne, tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire, elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gamme et bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, historique, hystérique. Anne, ma sœur Anne. Je te disais ce que j'entends, Anne, ma sœur Anne. Les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements, Anne, ma sœur Anne. J'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre, Anne, ma sœur Anne. Tranquille, elle reviendra plus la vermine. malvenu. Pour ces anciens damnés au goût de déjà vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières. Pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière, comme hier Anne Masseron. Si je te disais ce que je vois venir, Anne Masseron.
Le tribunal de Nuremberg, juste après la guerre, s'est donné pour tâche de juger les crimes commis par les nazis pendant la guerre. Il faudra attendre les années 2000 pour que les États du monde se dotent d'une cour pénale internationale dont le siège est installé à La Haye, aux Pays-Bas.
Nous y étions en janvier 2009, quelques semaines avant que la CPI ne fasse parler d'elle dans les médias par la mise en accusation du président du Soudan pour les crimes commis au Darfour.
Gilbert Bitti, conseiller juridique hors classe à la Cour pénale internationale, et Antonia Pereira de Souza, responsable adjointe de la coopération au bureau du procureur, nous éclaire sur le fonctionnement et le rôle de la CPI.
Sur quelle décision la CPI a-t-elle été créée ?
Alors, elle a été créée par une décision des États, de la Conférence de Rome. 160 États se sont réunis à Rome du 15 juin 1998 au 17 juillet 1998. Et à la fin, donc le 17 juillet, 120 États ont voté en faveur d'un statut, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur après 60 ratifications. Les 60 ratifications d'État donc, ont été obtenues en avril 2002 et le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.
Quelle est l'histoire de la justice internationale depuis le procès de Nuremberg ?
Après le procès de Nuremberg et le procès de Tokyo, il y a eu donc deux tribunaux internationaux qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des projets aux Nations Unies. La Commission du droit international a proposé deux projets successivement, en 1951 et 1953. Ces deux projets ont été enterrés par les Nations Unies, qui étaient à l'époque en pleine guerre froide, et ils ont été enterrés dans un enterrement de première classe où on a utilisé une des techniques des Nations Unies pour enterrer les projets. On a dit à l'époque, donc en 1953, qu'on ne pouvait pas avoir de cour pénale internationale avant d'avoir un code pénal international. Donc on a suspendu les discussions. Et ensuite on a dit on ne peut pas avoir de code pénal international avant de définir l'agression. Et donc les négociations sur le code pénal ont aussi été suspendues. Les négociations ensuite ont repris à partir de 1989. Elles ont été enterrées pendant presque 40 ans. À partir de 1989, sur une initiative de Trinidad et Tobago, qui en 1989 a demandé la création d'une cour pénale internationale pour des crimes de trafic de drogue. La proposition n'a pas été suivie puisque la Cour pénale internationale aujourd'hui n'a pas de compétences pour trafic de drogue, mais l'idée a réapparu donc dans les années 90 après la création des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les Nations Unies ont réellement commencé la négociation du statut qui a été définitivement adopté en 1998.
Comment fonctionne la Cour pénale internationale ?
Elle fonctionne, d'abord il lui faut un budget. Ce budget est adopté et financé donc par les États parties, donc pas comme les Nations Unies. Notre budget ne vient pas des Nations Unies. Nous ne sommes pas un organe des Nations Unies. La Cour pénale internationale est une organisation internationale indépendante des Nations Unies. C'est aussi une juridiction internationale. Notre budget pour l'instant culmine à environ 100 millions d'euros. Il est payé par 108 États parties. Voilà comment elle fonctionne. La Cour elle-même fonctionne grâce à quatre organes, le bureau du procureur, le greffe, les sections et la présidence.
Généralement, combien de temps faut-il pour traiter une affaire ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas traité d'affaire complètement. Il a fallu, pour commencer le premier procès devant la Cour pénale internationale, 3 ans. Donc, pour l'instant, les procédures sont relativement longues, parce qu'on a eu des problèmes dans le premier procès. Le deuxième procès devrait commencer dans un délai beaucoup plus rapide, je pense.
Est-ce que la CPI est concernée par le terrorisme ?
Non, nous n'avons pas compétence pour le terrorisme. Il serait possible d'avoir compétence pour certains actes de terrorisme à condition qu'on puisse les qualifier soit de crimes de guerre, soit de crimes contre l'humanité. Ce qui supposerait qu'ils aient une ampleur considérable. Mais ça n'est pas impossible. Pour vous donner un exemple, lors des négociations du statut de Rome, le gouvernement espagnol a continuellement déclaré que les actes de l'ETA en Espagne étaient constitutifs de crimes contre l'humanité.
Quel type de crime justement le plus ?
Alors nous, on est compétents pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Pour l'instant, nous avons essentiellement des affaires de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pour la première fois, lors d'une demande de mandat d'arrêt contre le président al-Bashir, le président du Soudan, le procureur a utilisé la qualification de génocide. Les juges doivent décider, je pense, dans les semaines qui viennent, en ce qui concerne cette demande du procureur. Mais toutes les affaires que nous avons pour l'instant sont toutes des affaires crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Et pourquoi la CPI n'a pas sa propre police ?
Parce que les États n'ont jamais voulu nous donner de propre police. J'espère qu'un jour nous aurons un corps d'armée ou un corps de police qui éventuellement aura l'autorisation d'aller arrêter les gens à notre demande. Ce serait quand même une modification assez substantielle du principe de souveraineté des États. Ou alors il faudrait obtenir un accord de tous les États pour que cette police puisse intervenir sur leur territoire au nom de la Cour pénale internationale. Pour l'instant, le seul qui puisse prendre de telles mesures, c'est le Conseil de sécurité sur base du chapitre 7 des Nations Unies, puisqu'il a le droit de recours à la force. Nous pouvons prendre des décisions, mais c'est aux États à mettre en œuvre de nos décisions s'ils le veulent bien. Ils doivent le faire s'ils sont État partie au statut de Rome.
Quelles sont les limites de la CPI, en fait ?
Oh, les limites, elles sont nombreuses. Nous avons des limites en ce qui concerne la compétence, puisque, à part si le Conseil de sécurité nous réfère une situation, notre compétence se limite aux territoires sur lesquels les crimes ont été commis, à condition que ces territoires soient des territoires d'État partie au statut, ou par les nationaux d'État partie. Donc, par exemple, le procureur vient de nous dire que nous n'avons pas compétence pour ce qui se passe, par exemple, à Gaza en ce moment. Israël n'a jamais ratifié le statut de Rome. Et il y a quand même encore près de 90 États dans le monde qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc nous avons des compétences, nous avons des limitations en ce qui concerne la compétence de la Cour. Nous avons des limitations budgétaires. Nous avons une limitation à 100 millions d'euros. Ça peut paraître un gros budget, mais quand il faut faire des enquêtes très complexes sur des crimes de masse, c'est un budget assez limité. Nous avons aussi des limitations d'exercice, en fin de compte, de la compétence, parce qu'on doit s'en remettre aux États pour nous rapporter des preuves, et nous avons une compétence très limitée pour pouvoir faire des enquêtes sur le territoire des États, ce qui limite beaucoup notre capacité à agir.
Est-ce que vous avez remarqué une diminution des crimes depuis le début, depuis qu'elle existe, la Cour ?
Alors j'aurais beaucoup aimé qu'en 6 ans, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité diminuent. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Peut-être que ça arrivera, mais je serai mort depuis longtemps. Même si ça n'arrivait pas, je pense quand même que les gens qui ont commis ce genre de crime doivent être poursuivis. Mais je ne peux pas vous dire qu'en 6 ans, on a noté une nette diminution de ces crimes. Ce que je pense, c'est que petit à petit, les gens qui sont en situation de commettre de tels crimes commencent à réaliser que ça peut avoir des conséquences pour eux plus tard. Et ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est positif.
Je me présente déjà, Antonia Pereira de Souza, je travaille pour le bureau du procureur dans la division de compétences, complémentarité et coopération. Donc, la distinction entre les 3 crimes, si vous voulez, qui sont couverts par la compétence du statut de Rome et par la Cour pénale internationale, nous avons les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide.
Dans le cadre du crime de génocide, c'est un crime qui est assez facilement défini. C'est, selon l'article 6 du statut de Rome, le crime de guerre est commis par quelqu'un, par tous les actes commis dans l'intention de détruire, en toute ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Alors, ces actes peuvent être le meurtre de membres de ce groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de ce groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence qui peuvent entraîner à sa destruction physique totale ou partielle, ou toute autre mesure visant à entraver les naissances, par exemple au sein du groupe, ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ça, c'est le cadre du crime de génocide. Les crimes contre l'humanité sont tous les actes qui sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Donc là, tous les actes possibles sont le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique ou la violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable par des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, religieux, culturel ou sexiste, des disparitions forcées, le crime d'apartheid et tout autre acte inhumain de caractère analogue qui vise à causer intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé mentale ou physique des individus. Et enfin, le crime de guerre. Il s'agit de crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique visant commettre des crimes dans le cadre d'une guerre à grande échelle. Et dans ce cadre-là, c'est plus ou moins les mêmes crimes qui sont dans le cadre du crime contre l'humanité. L'homicide intentionnel, la torture, les traitements inhumains, le fait de causer intentionnellement des grandes souffrances, la destruction et l'appropriation de biens, le pillage, le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une autre personne à servir dans les forces d'une puissance quelconque. Encore une fois, le crime de guerre sont valables, sont définis dans le cadre du statut de Rome pour les crimes, pour les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux. Dans le cas de l'affaire Lubanga, Lubanga lui-même est accusé donc d'avoir recruté des enfants, de les avoir parfois enlevés à leur famille et de les avoir formés dans des camps militaires de son groupe armé en Ituri et de les avoir forcés à participer activement à des activités de guerre pendant le conflit en Ituri de 2002 à 2003. Mais on peut penser à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison. Et ce sera la décision des juges. Alors actuellement, le bureau du procureur a ouvert des enquêtes sur 4 situations. La République démocratique du Congo, l'Ouganda, la République centrafricaine et le Darfour au Soudan. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des 3 premières situations que je vous ai citées, donc la République démocratique du Congo, l'Ouganda et la République centrafricaine, ce sont tous les 3 des États partis à la Cour pénale internationale et ces États eux-mêmes ont référé les 3 situations au procureur de la Cour pénale internationale qui, après avoir analysé la situation, a décidé d'ouvrir une enquête. Dans le cadre de la situation au Darfour, au Soudan, le Soudan n'est pas un État parti de la Cour pénale internationale, mais le Conseil de sécurité nous a référé la situation. Encore une fois, après analyse de la situation, le procureur a décidé d'ouvrir une enquête. En République démocratique du Congo, nous avons actuellement 3 enquêtes, celle qui concerne Thomas Lubanga Dihilo. Le procès débutera d'ailleurs le 26 janvier, ça a été confirmé récemment. Le deuxième procès deuxième cas que nous avons est celui de Mathieu Katanga et de Germain Katanga, pardon, et Mathieu Ngoudjolochoui, qui concerne encore une fois des crimes commis en Ituri et qui concerne là des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis lors de l'attaque du village de Bogoro en février 2003 par les troupes de Katanga et de Ngoudjolo. Et donc nous attendons actuellement la confirmation de la date du début du procès. Et troisièmement, le bureau du procureur a ouvert récemment une enquête sur les crimes commis au Kivu. Il s'agit en particulier de crimes de caractère sexuel sur lesquels nous allons donc enquêter et nous avons donc lancé une enquête. En Ouganda, nous avons demandé et la Chambre a émis 5 mandats d'arrêt pour les crimes commis par Joseph Kony et les autres commandants de l'armée... que je traduise de l'anglais au français, c'est Lord Resistance Army, l'armée de résistance du Seigneur, qui ont été commis donc, dans le nord de l'Ouganda de 2002 à 2003. Encore une fois, il s'agit de crimes de recrutement d'enfants soldats et aussi de crimes à caractère sexuel. Nous attendons l'exécution de ces mandats d'arrêt. Dans le cadre de la République centrafricaine, comme vous avez pu le voir très récemment, le bureau du procureur a ouvert une enquête sur les crimes commis par Jean-Pierre Bemba Gombo. La confirmation des charges, l'audience de confirmation des charges s'est terminée hier. Il s'agit surtout de crimes à caractère sexuel. C'est d'ailleurs la première fois où le nombre de crimes sexuels et de viols est supérieur au nombre de meurtres. Et c'est une affaire sur laquelle le bureau du procureur compte développer sa politique de vraiment mettre une emphase sur les crimes sexuels et les crimes commis contre les enfants. Et la quatrième situation est donc celle du Darfour. Dans le cadre du Darfour, nous avons également trois enquêtes. La première concerne Ahmed Haroun et Ali Kouchaib. Ahmed Haroun, ancien ministre d'État de l'Intérieur, et Ali Kouchaib, dirigeant des Janjaweed, pour les crimes commis au Darfour. Nous attendons aussi l'exécution des mandats d'arrêt. La deuxième affaire a été ouverte et présentée par le procureur aux chambres le 14 juillet 2008. Contre le président du Soudan, Omar al-Bashir, pour des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et la troisième affaire que nous avons présentée au juge en novembre dernier concerne l'attaque par des groupes rebelles au Darfour de la base de l'Union africaine à Ashkanita, dans le nord Darfour, qui a eu lieu le 29 septembre 2007. Et pendant cette attaque, 8 soldats africains ont été tués et 12 autres ont été blessés. Ce sont les quatre situations sur lesquelles le bureau du procureur enquête. Parallèlement à cela, le bureau du procureur analyse aussi de nombreuses situations. L'analyse est une phase qui arrive avant l'ouverture d'une enquête. Et pour l'instant, il y a quelques situations qui sont en analyse, comme la Géorgie, l'Afghanistan, le Kenya, la Côte d'Ivoire et la Colombie. Certaines affaires qui relèvent de l'intérêt de la communauté internationale ne sont pas sous analyse par le bureau du procureur, du simple fait qu'elles ne relèvent pas de la compétence du bureau du procureur. L'Irak, le Venezuela par exemple, ont été deux situations qui ont été analysées par le bureau du procureur, et suite à cette analyse, nous avons décidé de ne pas ouvrir d'enquête, parce que dans le cas du Venezuela, nous avions considéré que les crimes allégés ne relevaient pas du critère de gravité qui a été établi. Et dans le cadre de l'Irak, pour les crimes allégés qui auraient été commis par des États partis du statut de Rome, encore une fois, nous avons déterminé que le critère de gravité n'était pas atteint, et également que des poursuites et des enquêtes nationales étaient déjà en cours dans ce cadre-là. La Cour pénale internationale a vocation à une vocation de complémentarité. Elle ne remplace pas les cours nationales. Elle intervient uniquement en dernier recours si ces cours ne sont pas capables ou ne veulent pas juger des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour.
Et dans ce combat, nous retrouvons Simone Veil.
Vous êtes présidente du Fonds des victimes des crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale. Comment percevez-vous ce rôle? Et croyez-vous que la CPI pourra jouer un rôle pour prévenir les crimes de guerre et de génocide?
Oui, le statut de la Cour pénale internationale, et surtout le statut du Fonds des victimes dont vous parlez, est très particulier. Parce que c'est la première fois que dans un accord international de ce genre, on crée un Fonds des victimes. Je crois que c'était d'ailleurs à l'initiative à l'époque, qui était de Jacques Chirac, qu'avait été ajoutée cette possibilité. Mais c'est une possibilité qui est très compliquée, en fait, parce que pour que le fonds puisse intervenir, ce fonds des victimes, il faut auparavant que la Cour elle-même, c'est-à-dire les magistrats, qui sont saisis d'un dossier, se soient prononcés quant à la culpabilité des gens qui sont mis en cause. Alors en réalité, c'est d'abord il a fallu mettre en place tous les textes, ça a été compliqué, et puis ça n'est pas simple, et c'est maintenant seulement qu'on commence à mettre en œuvre ces procédures, mais qui sont complexes, qui sont pas simples du tout. Et maintenant vous parlez alors du traité de Rome. Je dois dire, et de la Cour pénale internationale en général, elle a pas mal de difficultés pour fonctionner, même si la qualité des juges est excellente, avant d'arriver à avoir les preuves contre telle ou telle catégorie de personnes, c'est pas facile.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
On mesure bien toutes les difficultés, mais aussi tous les espoirs qui peuvent être mis dans cette juridiction internationale. Pour autant, la vigilance de chacun reste indispensable. Le 9 octobre 1942, il a échappé à la rafle de Château-du-Loir, toute sa famille a été exterminée à Auschwitz. Henri Joannovici.
Croyez-vous aujourd'hui qu'il est important de témoigner ?
Absolument. Si je suis venu chez vous pour vous rencontrer, c'est car il faut savoir ce qui s'est passé, jusqu'où l'être humain peut faire à un autre être. Et ça, par mémoire, entre eux, pour les miens, de façon à ce qu'ils ne soient pas morts dans l'oubli. Pour savoir ce qui est pour les générations, pour vous éclairer, pour dire bon, On a été témoins. Là, il y a eu un témoin qui nous a raconté, nous sommes allés à Auschwitz, on a pu voir dans quelles conditions, et encore que lorsque j'y suis allé, c'est-à-dire le 31 mars 1981, les baraquements, il y en avait beaucoup plus, et il y avait à Birkenau encore une odeur de mort. Ça qui est indélébile de voir partout ce qui a pu se passer, et que là, des générations comme vous soient curieux et ont besoin de savoir, c'est vital. C'est vital. Il faut que vous sachiez ce qui s'est passé.
Cette émission « Témoigner, comprendre et pour demain prévenir » est la dernière de la série consacrée à la Shoah, réalisée par les lycéens de première L du lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume dans le cadre de l'option radio et en collaboration avec les enseignants de lettres et d'histoire. Nous remercions pour leur initiative et leur soutien la Fondation pour la mémoire de la Shoah et le Mémorial de la Shoah à Paris, ainsi que la région des Pays de la Loire dans le cadre de son programme d'action éducative sur l'éducation à la tolérance et à la paix. Nos remerciements particuliers à Charles Zelti, Alban Perrin, Charlotte Le Provost, à Franck Pouhu et Jacques Chénier, à la Cour pénale internationale de La Haye et au musée de la Maison d'Anne Frank à Amsterdam, à nos confrères du lycée sud de la classe de Madame Bodineau, et notre très grande reconnaissance à Monsieur Henri Joanovici, Madame Josette Alia et Madame Simone Veil pour nous avoir reçus. Cette série radiophonique est une production fréquencillée 97.9 en Pays d'Haute-Sarthe.